Tête chercheuse. C'est tous les samedis et dimanches sur France Culture avec des scientifiques, des universitaires, des spécialistes, mais surtout, surtout des passionnés.
Napoléon a dit, je veux plus de femmes ici. Alors nous les soldats, on va les voir là-bas. À nos soldats, papa, ça les obéit pas.
Bonaparte et l'Amérique avec Jean Tullard.
Ne partez pas, Prince. L'empereur va vous demander de reprendre tout de suite le portefeuille des relations extérieures.
Danois !
Sire ?
Caulaincourt vous a dit ce que j'attendais de vous ?
Mais oui, sire, oui. Je suis profondément ému en songeant que votre majesté se souvient encore de moi, mais je ne suis pas au courant de ces affaires.
Allons donc ! Vous les connaissez mieux que quiconque !
Alors, disons que c'est en connaissance de cause que je refuse de m'en charger, car en vérité, elles sont en contradiction avec ma manière d'envisager la gloire et le bonheur de mon pays.
Vous devriez savoir qu'on ne gagne rien à lutter contre ma puissance. Et je vous déclare que s'il m'arrivait d'être gravement malade un jour, vous seriez mort avant moi.
Sire, je n'ai pas attendu cet avertissement pour prier le bon Dieu de bien vouloir prolonger indéfiniment les jours de votre majesté.
Celui qui me refuse aujourd'hui ses services est nécessairement mon ennemi.
Bonaparte et Washington, le renouveau. Il y avait une guerre avant, entre les deux pays ?
Alors, effectivement, il y a eu des guerres maritimes entre la France et les États-Unis. Il ne faut pas oublier que la paix de Versailles, qui met fin à la guerre d'indépendance américaine, à laquelle nous avons participé, s'achève en 1783. Nous ne sommes pas loin de l'avènement de Bonaparte, 1799. Les événements sont très proches. Et le souvenir qu'on en a gardé, c'est qu'en définitive, la France n'a tiré aucun avantage de son aide à l'indépendance américaine. Et c'est Talleyrand lui-même qui fera remarquer dans une communication à l'Académie des sciences morales et politiques, qui à l'époque s'appelait la classe des sciences morales et politiques, et à laquelle il appartenait, que nous avons aidé les États-Unis à vaincre l'Angleterre, mais que nous n'en avons retiré aucun avantage commercial, aucun avantage économique. À peine les États-Unis étaient-ils devenus indépendants qu'ils se tournaient vers l'Angleterre et nous oubliaient. Et il y a eu pire, c'est que finalement nous nous sommes trouvés en conflit avec les États-Unis à cause du commerce maritime. En effet, nous sommes en guerre à partir de 1793, nous sommes en guerre avec l'Angleterre dans l'Atlantique. Or, les navires américains sillonnent l'Atlantique. Et inévitablement, nos corsaires, nos vaisseaux de guerre, ne savent pas toujours reconnaître un navire anglais d'un navire américain. Et ils arraisonnent quelquefois des navires américains. De là, un profond mécontentement des États-Unis et un état de guerre larvé entre les deux alliés. Et voyez, nous sommes pourtant pas si loin que ça de l'indépendance américaine. Nous voilà maintenant en guerre avec les États-Unis. Une guerre larvée. Et les États-Unis annoncent si bien conscience qu'ils vont envoyer, c'est Jefferson qui va envoyer un diplomate, une délégation diplomatique pour négocier avec la France. Nous sommes en 1798, qui est ministre à l'époque des relations extérieures de la France, c'est Talleyrand. Donc les braves représentants américains arrivent à Paris pour négocier avec la France pour qu'on mette fin à cet état de guerre maritime larvé. Ils demandent logiquement une entrevue avec Talleyrand. On leur dit que le ministre, le citoyen ministre, reçoit, mais qu'avant, il faudrait lui envoyer quelques douceurs. Alors les braves Américains ne comprennent pas. Des douceurs, sweeties, qu'est-ce que c'est ? Ils pensent peut-être que c'est une boîte de chocolat ou autre. En réalité, Talleyrand est déjà archi-corrompu comme ministre et il n'accorde d'audience que si on lui fait des cadeaux. Alors quand les Américains comprennent le sens du mot « douceur », ils sont furieux parce que, n'oubliez pas, les États-Unis, c'est une nation jeune, une nation morale, ce sont les Quakers, des gens très très incorruptibles. Donc il y a une très vive indignation des délégués américains et la tension s'accroît encore plus entre la France et les États-Unis. Voyez où nous en sommes. Nous sommes en 1797. En 1783, on signait la paix de Versailles qui assurait l'indépendance avec les États-Unis. Et donc, voilà que cet état de guerre va se retrouver mis en cause par le renversement du directoire et l'arrivée de Bonaparte au pouvoir. Et parallèlement à l'arrivée de Bonaparte, survient un événement considérable qui est le 14 décembre 1799. C'est le héros de l'indépendance américaine. Je ne vais pas l'apprendre à nos auditeurs. Ils savent d'ailleurs que la capitale des États-Unis s'appelle Washington. Washington est un homme extrêmement rigoureux et qui a voulu, dans le conflit entre la France et l'Angleterre, que les États-Unis soient neutres. Il n'a jamais voulu pencher en faveur de la France. Néanmoins, les Français décident, sous l'impulsion de Bonaparte, de célébrer Washington. Il vient de mourir, eh bien, on envisage de lui élever une statue, on va mettre les drapeaux en berne et car il y a toujours, quand un gouvernement prend une décision, une arrière-pensée politique, cherche toujours, quelle que soit la décision d'un ministre, il y a toujours une arrière-pensée derrière. Washington, c'est quoi? Washington, c'est le président des États-Unis. Un président de République, très autoritaire, et dont le mandat est relativement limité. Qu'avons-nous à la tête de la France? Un président de la République à ce moment-là, un premier consul, dont le mandat est limité à 10 ans. Et donc, vous voyez que faire un parallèle entre Washington et Bonaparte, ce que va faire immédiatement un publiciste qui a la plume très facile, qui s'appelle Fontane, faire un parallèle entre les deux, c'est grandir Bonaparte. Et donc, pour montrer que Bonaparte, c'est le nouveau Washington d'une France qui est en train de s'épanouir à nouveau, qui va rivaliser avec les États-Unis et autres, eh bien, on célèbre le culte de Washington. Et Washington devient un héros national à la fin de 1799 et au début de 1800 en France. Pour beaucoup de gens, ça ne veut pas leur dire grand-chose, mais est donc paré ce parallèle Bonaparte-Washington. Alors, mais c'est que les Américains sont très flattés, parce que Washington, c'est le héros. Et donc, ils vont s'apercevoir que ces Français, ces Frenchies, ne sont pas si mal que ça, qu'après tout, on a bien eu tort de ne pas leur accorder des avantages économiques, comme l'avait souligné Talleyrand. On a bien eu tort de ne pas vouloir prendre parti, les républicains, par opposition conservateurs aux États-Unis, étaient relativement favorables à la France. On a eu tort, et donc, voilà.
Les démocrates ou les républicains?
Ce qu'on appelle, on n'appelle pas à l'époque, ce sont les républicains qui sont les plus favorables à la France, du nom des républicains. Les autres, on les appelle conservateurs à l'époque. Et donc, les opposants, enfin les démocrates, c'est Jefferson. Et donc, on va ouvrir des négociations nouvelles avec la France, et ce sera le traité de Mortefontaine du 30 septembre 1800 qui permet la reprise des échanges dans un climat apaisé avec la France et qui, en même temps, libère Bonaparte de ses soucis du côté des Antilles. Il va pouvoir intervenir à Saint-Domingue et aller calmer la révolte de Toussaint-Louverture. Vous voyez que, au fond, le consulat en France s'ouvre sous le signe de Washington. C'est inattendu, mais il fallait le rappeler.
Pour des raisons donc de politique intérieure, mais aussi de politique extérieure, donc Lantulard.
Oui, vous avez deux choses. La politique intérieure, c'est la propagande, parce qu'on ne sait pas encore, en 1800, au début de 1800, quelles sont les intentions de Bonaparte.
C'est bien de s'identifier à cette statue Washington, ouais.
Qui est un républicain pur, et en même temps, qui a autoritaire, et qui a tenu d'une main de fer les États-Unis au sortir de l'indépendance, mais qui n'a qu'un pouvoir limité, comme le premier consul. Donc ça rassure ceux qui se demandent quelles sont les intentions de Bonaparte, car est-ce qu'il va confisquer le pouvoir à son profit? ou est-ce qu'il va restaurer la monarchie? Il est évident qu'un homme qui admire Washington ne va pas rétablir un roi. Voilà qui va rassurer les républicains. Et l'autre plan, c'est le commerce avec, dans l'Atlantique, le commerce avec les États-Unis. De plus en plus, nous avons besoin du coton américain. Nous avons besoin des produits qui viennent des Antilles, le sucre, le café, etc. Donc, vous voyez que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes au début de 1800, grâce au culte français qui ne durera pas, mais enfin au culte français.
Comment l'Angleterre va réagir à ce rapprochement franco-américain?
Alors l'Angleterre va réagir d'une façon positive, c'est-à-dire que l'Angleterre comprend qu'à ce moment-là, il ne faut pas continuer la guerre avec la France, qui est maintenant un allié puissant, les États-Unis, et donc va être signée en 1800 à 1802 la paix d'Amiens, qui met fin à la guerre maritime entre la France et l'Angleterre, et qui met fin à la guerre tout court, car je vous rappelle que la France était en guerre avec l'Europe depuis 1792, avril 1792, et voilà que maintenant, en 1802, la France est en paix avec l'ensemble du continent européen. Merci encore, Washington.
Une nouvelle page avec le nouveau monde, parce qu'il s'agit aussi de réhabiliter les États-Unis en France.
Oui, alors les États-Unis on les trouvait un peu ingrats, du moins c'est Talleyrand qui avait donné cette image, mais nous reviendrons sur les rapports de Talleyrand avec les États-Unis, car il s'y était rendu. Et Talleyrand, bon, avait donné une image un peu négative. Ce n'est pas lui, d'ailleurs, qui négocie à Mortefontaine. C'est Joseph Bonaparte, c'est Roederer, et ce sont d'autres personnes. Talleyrand avait été complètement discrédité par l'affaire X, qu'on appelle XYZ, ces négociations où il avait exigé de l'argent pour signer un traité avec les États-Unis, ce que les États-Unis, très moralisateurs, n'avaient guère apprécié.
Bonaparte et l'Amérique, l'affaire de la Louisiane. Ben oui, on avait oublié, il y avait aussi un bout de la France dans cette Amérique qui se crée à ce moment-là.
Et oui, en 1682, Cavalier de la Salle avait descendu le Mississippi et il était arrivé jusqu'au golfe du Mexique. Et il avait baptisé cette terre qu'il venait d'explorer en hommage à Louis XIV, la Louisiane. Et puis un peu plus tard, il y aura une capitale, la Nouvelle-Orléans. Pourquoi la Nouvelle-Orléans? En hommage au régent, le duc d'Orléans. Donc nous sommes là dans une terre tout à fait française où il n'y avait que des Indiens, mais c'était très peu peuplé. C'est donc une zone que la France va effectivement considérer comme l'une de ses colonies. C'est une colonie lointaine, c'est une colonie évidemment très vaste, et la France n'est pas assez peuplée pour la coloniser, ce qui fait qu'après y avoir envoyé, je pense que les habitants de la Louisiane me pardonneront, un premier peuplement qui était fait de prostituées, qu'on évacuait ainsi, mais après tout, les prostituées, c'est très commode, parce que ça repeuple un pays. Et donc, on avait, rappelez-vous Manon Lescaut, et donc, on envoie les prostituées, on envoie des gens de sac et de corde, car c'est la colonie, c'est à l'époque le moyen de se débarrasser d'un certain nombre de gens dangereux. Et bon, comme on est très embarrassé par cette Louisiane trop loin, trop vaste, en 1762, la rive droite du Mississippi est abandonnée à l'Espagne. Et les Espagnols, eux, sont déjà en Amérique latine. Ils ont plus cette vocation américaine que nous, Français.
De la conquête,
et,
oui.
Mais oui, donc ils ont fait la conquête de l'Amérique latine, donc après tout. Et ils vont envoyer, effectivement, toute une série de colons. La Louisiane va se développer plus à ce moment-là avec les Espagnols qu'avec les Français. Et puis apparaissent les Américains. Les Américains qui sont dans la région des Grands Lacs et pour qui le Mississippi, c'est la grande voie commerciale. Donc, vous voyez, les ambitions sont en train de se mettre en place avec des Américains qui montent, des Espagnols qui se plaisent en Louisiane, et puis des Français qui ont abandonné un peu les espoirs de colonisation jusqu'au moment où les révolutionnaires, la Révolution française, la Convention, estiment que on a un peu trop négligé la Louisiane, qu'après tout, nous avons besoin de colonies. Nous avons besoin de colonies pour les matières premières, nous en avons besoin pour le bois, notamment pour la marine. Et donc, finalement, comme nous avons été en guerre avec l'Espagne, que nous l'avons vaincue, nous avons signé un certain nombre de traités, eh bien, par le traité de Saint-Ildefonse, là, on va récupérer la Louisiane, on va l'enlever aux Espagnols et on va à nouveau s'y installer. Alors, effectivement, ça devient d'autant plus intéressant, la Louisiane, que à partir de la paix d'Amiens, nous sommes en paix avec l'Angleterre. Car le grand problème, c'est de faire le voyage.
La traversée, sans problème.
Aujourd'hui, bon, vous avez des avions, vous avez des navires très rapides, mais à l'époque, bon, c'était très long. Et puis, il y avait l'Angleterre. Qui menaçait chaque fois les bateaux, les arraisonner, les piller, les couler. Bref, ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux, mais Bonaparte lui-même considère que c'est se détourner des affaires continentales que de s'établir en Louisiane. Alors il envoie bien un capitaine général, Victor, qui sera le futur maréchal. Il envoie bien une sorte de préfet régional, Lossa, mais il ne croit pas beaucoup à l'avenir de la Louisiane. Il y a cela diverses raisons. Il pense d'abord que c'est trop loin, que pratiquement la Louisiane va être attirée dans la mouvance des États-Unis. C'est ça qui montre le génie de Bonaparte à cette époque et celui de Talleyrand aussi, c'est qu'ils comprennent que les États-Unis sont la puissance montante et que les États-Unis vont absorber tout. On pense même à l'époque qu'on ne pourra pas se maintenir en Guadeloupe et en Martinique, qu'elles vont tomber sous la coupe des États-Unis. Et puis, il y a l'affaire de Saint-Domingue. Saint-Domingue, qui pose le rétablissement de l'esclavage, va se révolter. Et ça, c'est la grande faute de Napoléon, on le sait, le rétablissement de l'esclavage. Mais parce que, vous voyez, là encore, il avait besoin de main-d'œuvre parce qu'il ne pouvait pas envoyer de colons. Donc, pour mettre en valeur la Martinique, la Guadeloupe, toutes les Antilles. Et donc, la révolte des esclaves, et surtout Saint-Domingue, cette guerre atroce, épouvantable, où le général Leclerc, le beau-frère de Bonaparte, qui a épousé Pauline, va mourir de la fièvre jaune. Tout ça fait que Bonaparte n'a plus très envie de garder la Louisiane. Et puis il pense que ce serait bien, à nouveau, cette alliance avec les États-Unis. Nous avons déjà signé le traité de Mortefontaine. Et de leur côté, les États-Unis songent, c'est Jefferson maintenant, c'est plus Washington, il est mort. Donc c'est Jefferson, et Jefferson, lui, est assez favorable à mettre la main sur la Louisiane, et donc il envoie Livingston et Monroe à Paris pour voir si la France accepterait de céder la Louisiane.
Comment ça se négocie ?
Alors c'est une négociation qui va s'ouvrir de la façon la plus stupéfiante qui soit, dans la mesure où l'on voit que Bonaparte n'était pas un homme d'affaires, dans la mesure où les Américains arrivent avec un certain crédit, et une certaine somme importante pour proposer d'acheter à la France la Louisiane. On peut vendre un territoire. Ça choquerait aujourd'hui, effectivement, mais n'oublie pas, ce sont des colonies encore très peu peuplées. C'est comme vous vendez 3 hectares de forêt ou un champ avec des pommiers. Donc c'est un peu ça, la négociation. Et les Américains arrivent avec beaucoup d'argent. Et puis finalement, non, pas du tout. Bonaparte dit, ben, on peut s'entendre, 60 millions pour la France, et puis 20 millions pour dédommager ces navires américains qui avaient été, lors de ces guerres maritimes, qui avaient été abîmés, etc. Et donc, finalement, pour une somme de 80 millions, par un traité du 30 avril 1803, la Louisiane est abandonnée. Elle est abandonnée pour vraiment pas cher, on n'est même pas sûr, mais on a prétendu que l'argent n'était pas rentré dans les caisses de l'État, si. Mais en fait, bon, c'est pas une somme énorme, et on a beaucoup reproché à Bonaparte l'abandon de la Louisiane, et notamment les habitants de la Louisiane qui étaient par les Français, il y avait des colons français, et imaginez la tête du préfet Lossa qui arrive. C'est pas, il aurait peut-être préféré une préfecture en Corrèze ou je ne sais pas. Il se retrouve préfet de la Louisiane et puis il lance un grand discours et il apprend à ce moment-là que la Louisiane n'est plus française et donc on va hisser le drapeau américain. Ça a été pour lui un choc, mais il l'a raconté. Il a laissé une histoire de la Louisiane et il y a une histoire aussi de la Louisiane très bien que je recommande qu'on devrait rééditer de Barbé Marbois qui sera le ministre du Trésor de Napoléon et qui raconte toute la négociation.
Alors, comment vont réagir ces lointains Français installés en sol américain? Dans la Louisiane, donc, Jean Tullard, est-ce qu'ils vont réagir à peu près comme les Français en Algérie quand ils écoutent le général de Gaulle leur dire « je vous ai compris » et que très peu de jours après, ils comprennent que c'en est fini?
Oui, ce n'est pas tout à fait la même situation que les pieds noirs en Algérie, même s'il y a des pieds noirs indiens. C'est... enfin non, ce n'est pas la même situation, incontestablement. Il y a des Français, mais il y a aussi des Espagnols, il y a d'autres colons, et ils ont été extrêmement déçus. Ils ont été mortifiés. Il y a eu certainement...
Il y a de la rancœur. Est-ce qu'ils comprennent la raison d'État? Parce qu'il s'agit aussi de un peu de ça, non, Jean Tullard?
Ils comprennent très bien que si Napoléon, à ce qui est l'époque Bonaparte, ne lâche pas la Louisiane, ce sera la guerre avec les États-Unis à un moment donné à un autre, et que la négociation se fait dans des conditions extrêmement souples, et qui fait que la langue française va rester encore en Louisiane. Bon, la Nouvelle-Orléans, bon, reste la Nouvelle-Orléans. Le style reste le même. Je rappelle qu'il y a aussi des esclaves en Louisiane. Parce qu'on dit Bonaparte a rétabli l'esclavage. Bon, ben, en Louisiane, il y était déjà. Et donc,
Ils vont rester en Louisiane.
Ils vont rester en Louisiane. Ils ne reviennent pas. Ce serait folie. Non, eux ne reviennent que les fonctionnaires qui étaient partis, c'est-à-dire Victor, qui va se couvrir de gloire sur les champs de bataille, et le pauvre Lossa.
Est-ce qu'on reproche tout de suite à Bonaparte d'avoir bradé la Louisiane, Jean Tullard?
Oui, d'emblée, il y a des gens qui critiquent, qui disent que c'est regrettable. Et aujourd'hui encore, lorsque vous lisez des livres sur la Louisiane, notamment un livre, l'un des derniers parus était de l'abbé Garnier, et ça s'appelle la vente de la Louisiane, et on voit très bien que dans le livre, l'opinion a constamment reproché cet abandon à Napoléon. Et je crois qu'aujourd'hui encore, c'est une des choses, un des reproches qu'on lui adresse.
Et pourtant, avec le recul, on peut se rendre compte que c'était la seule chose à faire, que non.
Il ne pouvait pas. Bon, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait développé de la canne à sucre, mais il fallait exporter vers la France. Ouais. Alors évidemment, les ports français étaient prêts à accueillir. Seulement, c'est l'Atlantique, c'est la guerre qui reprend dès 1803, car maintenant c'est fini la paix. On a négocié dans la paix. Vous nous excusez, nous avons parlé de la paix avec l'Angleterre, mais... 1803, c'est la rupture de la paix d'Amiens, et ça va être Trafalgar. Et donc, il valait mieux, je pense, abandonner la Louisiane, mais ayons quand même une pensée émue pour nos compatriotes, ceux qui parlent encore français en Louisiane aujourd'hui.
Est-ce que, une fois que cette affaire de la Louisiane réglée, pliée par les États-Unis, est-ce que les rapports entre la France et l'Amérique, oui, vont se réaffirmer?
Alors, c'est à ce moment-là que nous allons voir rebondir le problème des rapports avec les États-Unis. La France n'a pas de chance. Elle assure l'indépendance des États-Unis. Elle n'en tire aucun profit. Au contraire, 2 milliards de dettes qui ont précipité la chute de la monarchie. Voilà que maintenant, nous vendons la Louisiane. Et à vraiment un prix, vraiment, c'est bradé. Et donc, nous pourrions attendre une reconnaissance des États-Unis. Eh bien, nous verrons, je crois, comment les rapports avec les États-Unis ont une nouvelle fois mal tourné.
Thank you.
le commerce maritime. Et c'est reparti pour une guerre entre l'Amérique et la France.
Voilà, alors, qu'est-ce qui se passe? La guerre a repris entre la France et l'Angleterre. À Trafalgar, la flotte française a été en grande partie anéantie et Napoléon ne peut plus débarquer des troupes en Angleterre, il ne peut plus envahir l'Angleterre, il ne peut pas la vaincre militairement. Il va donc, car c'est un génie, utiliser une autre arme, l'arme économique. La puissance de l'Angleterre repose sur la livre sterling qui, elle-même, doit son pouvoir aux deux choses. D'une part, les exportations en Europe des produits industriels anglais, car je vous rappelle, l'Angleterre a fait sa révolution industrielle fondée sur la machine à vapeur, alors que le continent est encore très en retard. Et d'autre part, les exportations de produits coloniaux, car l'Angleterre a un empire colonial qui lui permet de redistribuer le sucre, le café, le coton, le cacao en Europe. Donc, si on ruine le commerce maritime anglais en empêchant les exportations anglaises sur le continent européen, l'Angleterre sera forcée de déclarer pouce, de demander la paix, la livre sterling s'écroulant, le chômage s'installant, les révoltes, bref, et l'Angleterre sera à genoux. Donc Napoléon décide par le décret de Berlin du 21 novembre 1806 de fermer le continent européen, l'ensemble du continent européen, aux marchandises anglaises. C'est donc une mesure terrible.
On appelle ça un embargo de nos jours.
Oui, voilà. Ce qu'on appelle le blocus continental, qui en réalité, c'est plutôt la fermeture du continent. Le blocus, ça c'est si les Anglais le bloquaient, mais pas du tout. C'est nous qui nous fermons. Alors, on préfère quelquefois le terme de système continental. En tout cas, les ports de l'Europe sont amenés à se fermer progressivement au commerce anglais. Mais, bon, c'est très bien. Et la riposte anglaise ne va pas tarder. Elle va également empêcher les exportations de l'Europe vers le continent américain. Et puis, voilà que c'est très bien, ce système. Les ports sont fermés aux navires anglais. Mais les navires américains exportent, les États-Unis exportent vers l'Europe, notamment le coton. Ils exportent un certain nombre de produits coloniaux. Alors, que va-t-il se passer? Les navires anglais vont arraisonner les navires américains pour savoir si ce ne sont pas des navires français ou des contrebandiers. Et inversement, les ports français vont se fermer aux navires américains. En sorte que dans cette lutte économique entre la France et l'Angleterre, l'une des victimes, c'est l'Amérique, c'est l'Amérique du Nord, qui ne peut plus exporter ses produits. D'autant que les Anglais sont encore plus rigoureux que les Français, ils exigent désormais que tout navire qui va aller mouiller dans un port européen doit avant mouiller dans un port anglais et doit verser une certaine redevance et doit signer un registre. Ce qui est très humiliant pour les Américains, donc qui non seulement vont faire arraisonner, vont être forcés d'aller dans un port anglais, c'est payer une taxe, puis ensuite ils vont arriver dans un port français, vont dire, oh, mais vous, est-ce que vous êtes pas, vous êtes anglais, vous, regardez, vous parlez anglais, et donc, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Et donc, voyez, le commerce américain va en souffrir énormément. Alors, ça va être au plus habile entre les Français et les Anglais pour ne pas blesser les Américains. Il faut dire que les Anglais n'y vont pas de main morte et c'est l'affaire en 1807 du Chesapeake. C'est un bâtiment de guerre qui est un navire de commerce américain qui va être arraisonné par le navire de guerre anglais, le Léopard, et donc qui va être, les Américains vont être extrêmement humiliés par cette affaire. Au point que Madison, vous savez, on a commencé par Washington, on a eu Jefferson, on a eu Madison, qui maintenant succède à Jefferson. Jefferson, il n'est pas très hostile à la France, il est plutôt bienveillant. C'est l'aile gauche, enfin, ce serait le... on les appelle les républicains à l'époque, mais enfin... Et lui va prendre une mesure, Madison va prendre une mesure, le Non-Intervention Act. C'est-à-dire, à nouveau, les États-Unis vont se déclarer neutres. Pour ne pas, en déclarant, nous ne nous mêlons pas de cette guerre maritime entre la France et l'Angleterre. Et donc, c'est le Non-Intervention Act de 1809, essaie de définir une jurisprudence, enfin, parce que les ports américains, Baltimore et autres, souffrent énormément. Les États-Unis, c'est une puissance montante, c'est une puissance qui veut exporter, qui veut s'imposer. Or, ils en sont extrêmement gênés. En fait, les Anglais vont pousser les choses si loin que, notamment en intervenant jusque sur les côtes américaines, que le 18 juin 1812, les États-Unis déclarent la guerre à l'Angleterre. Chers auditeurs, 18 juin 1812. Le 20 juin 1812, Napoléon franchit le Niémen et envahit la Russie. Voyez, ça aurait été un peu plus tôt, vous imaginez ce qu'elle bouée de sauvetage, ça représentait aussi pour Napoléon que cette entrée en guerre des États-Unis, qui maintenant vont affronter la flotte anglaise, vont empêcher l'Angleterre d'apporter une aide, cette aide qu'elle apporte notamment aux insurgés espagnols. Bref, les États-Unis deviennent maintenant nos alliés. Cette fois, ça y est, vous rappelez, depuis que nous avons commencé avec l'affaire XYZ de Talleyrand, nous sommes maintenant les alliés des États-Unis contre l'Angleterre. Donc, nous allons combattre ensemble. Malheureusement, décembre 1812, c'est la retraite de Russie, suit la campagne d'Allemagne, commence bien, mais s'achève sur le désastre de Leipzig, et c'est l'invasion de la France. Nous ne profiterons pas de cette alliance des États-Unis, et ce n'est pas encore en 1814 que les États-Unis vont débarquer des troupes en France pour contenir l'envahisseur. Il faudra attendre la Première Guerre mondiale pour qu'un général américain dise « Lafayette, nous voici ».
Mais est-ce que même dans la défaite, même dans la désolation, les liens vont se consolider entre cette Amérique qui soutient la France contre l'Angleterre et aussi entre Bonaparte et le Nouveau Monde?
Il y aura très peu de temps. La nouvelle parvient à Paris alors que c'est l'effondrement progressif du régime napoléonien. Et surtout, les Américains sont intervenus trop tard parce que voilà que avril 1814, Napoléon abdique. Alors, à partir de ce moment-là, les Anglais ont les mains libres. Ils vont se retourner contre les États-Unis et ils vont s'emparer de Washington. Ils vont même incendier Washington. Et ce sera aussi la bataille de la Nouvelle-Orléans. Donc, les États-Unis ont payé très cher cette guerre avec l'Angleterre. L'Angleterre était trop forte pour eux et ça ne s'arrête que lorsque Wellington dit « on ne va pas continuer comme ça à faire la guerre avec les États-Unis », qu'est-ce que ça nous rapporte? Rien. Nous avons incendié Washington, nous avons pris la Nouvelle-Orléans. Donc Wellington est un homme très pondéré, mais c'est qu'il va triompher de Napoléon à Waterloo. Donc Wellington dit « ne continuons pas cette guerre » et donc on arrête la guerre entre les États-Unis et l'Angleterre. Mais pour nous, ça ne présente plus d'intérêt dans un sens ni dans l'autre.
Est-ce qu'on peut dire que depuis, l'Angleterre et les États-Unis sont de vrais alliés?
Oui, peut-être. C'est cette élégance de Washington, de Wellington, de dire « bon, on ne va pas continuer, nous sommes plus forts, on se bat autour des Grands Lacs et autres ». Ils ont essuyé quand même quelques revers, mais enfin, ils sont emparés de Washington. Et donc, c'est là, véritablement, que s'en sera fini de ces conflits entre les États-Unis et l'Angleterre, qui étaient essentiellement des problèmes de commerce maritime. C'est à savoir qui va dominer l'Atlantique. Alors, aujourd'hui, qui domine l'Atlantique? Évidemment, ce n'est plus l'Angleterre. Ce n'est pas nous depuis Trafalgar, ce sont évidemment les États-Unis.
It's done. But yesterday a king, and armed with kings to strive, and now thou art a nameless thing, so abject. Yet alive, this is the man of thousand thrones, who stood our earth with us of old, and can he thus survive? Since he is called the Morning Star, nor man, nor fiend, hath fallen so far. Ill-minded man, why scourge thy kind who bow so low the knee? By gazing on thyself, grown blind, thou taught'st the rest to see. With might unquestioned, power to save, thine only gift has been the grave to those that worship thee. Nor till thy fall could mortals guess ambitions less.
Le rêve américain.
Alors, le rêve américain, effectivement, nous allons voir qui va devenir réalité. Pourquoi le rêve américain ? Jusqu'ici, nous n'avons vu que des rapports diplomatiques entre la France et les États-Unis et une poignée de colons que nous avons abandonnés en Louisiane. Nous leur avons dit au revoir. La Louisiane a été vendue aux États-Unis. Mais au fond, combien de Français sont à ce moment-là allés aux États-Unis ? Et c'est dans cette période de la Révolution et de l'Empire que va naître l'idée d'États-Unis magnifiques, porteurs d'immenses promesses et terre de refuge, terre d'asile. Le premier à avoir été séduit par les États-Unis, c'est un peu surprenant, c'est Chateaubriand. Chateaubriand qui a laissé Voyage en Amérique et qui nous a laissé Atala, les Natchez et autres témoignages sur l'Amérique. En effet, Chateaubriand, au moment où commence la Révolution, il est dans une situation matérielle pas très confortable, il n'est pas encore marié, dans une situation matérielle donc difficile, et puis dans une situation politique, il est un aristocrate, et la Révolution commence. Monsieur de Malesherbes lui dit, tiens, cher ami, si vous alliez faire un tour en Amérique, paraît que c'est magnifique. Et donc, Chateaubriand, qui est bon voyageur, part en avril 1791 pour les États-Unis. C'est l'un des premiers qui vraiment se lance dans cette aventure. Et il va débarquer à Baltimore, il va visiter Philadelphie. À l'époque, il a une lettre de recommandation pour Washington, mais Washington ne le reçoit pas. Hein. Il n'est pas assez connu, sans doute. En tout cas, il revient en janvier 1792, un peu tôt, parce qu'il va être forcé d'émigrer ensuite à Londres, et puis il va se retrouver dans l'armée des princes. Et de ce voyage, il débutera sous le consulat par un récit, Atala, qui va énormément séduire et mettre les Indiens, les Iroquois notamment, à la mode. Après, plus tard, arrivera Fenimore Cooper avec le dernier des Mohicans. Mais donc, Chateaubriand, il faut le dire, est l'un des premiers. Le deuxième personnage important à aller aux États-Unis comme terre de refuge, c'est Talleyrand. Talleyrand, le diable boiteux, avec son pied bon, on n'attendrait pas à ce qu'il voyage beaucoup, mais voilà que il est en Angleterre, il est à Londres, au moment où la terreur bat son plein à Paris, il s'est réfugié à Londres, et avec une mission diplomatique qu'il avait soutirée à Danton, mais en mars 1793, l'Angleterre entre en guerre contre la France après l'exécution de Louis XVI. Et donc les Français ne sont plus sur le sol anglais, persona grata, et donc Talleyrand doit quitter l'Angleterre, et c'est à ce moment-là qu'il ne peut pas revenir en France. Il est évêque d'Autun, grand nom aristocrate. L'échafaud lui est promis sans vraiment aucune hésitation. Donc, il choisit terre de refuge, les États-Unis et il part donc en mars 1794 pour Philadelphie et il va visiter les États-Unis. Je ne sais pas s'il ira, c'est Chateaubriand qui est allé voir les chutes du Niagara, je ne me souviens plus dans le cas de Talleyrand. D'ailleurs, on ne sait pas très bien ce qu'il a fait. Une chose est sûre, il a acheté du terrain. Il a acheté des bois, il a déjà bâti, il va rentrer plus riche qu'il n'était parti, c'est un excellent homme d'affaires, et il rentre le 31 juillet 1796, dans l'intervalle, il a été élu à la classe des sciences morales et politiques sans faire de visite, tellement son prestige est grand. Ensuite, après les immigrés, il va y avoir les conspirateurs royalistes qui sont poursuivis par la police de Fouché. C'est le cas notamment d'Yves de Neuville, l'auteur de l'explosion de la machine infernale. Lui aussi va s'enfuir, il va échapper à la police de Fouché. Et comme l'Europe n'est jamais très sûre, lui aussi va partir pour Philadelphie, va se retrouver aux États-Unis. Et puis, après 1804, après la grande conspiration de l'an 12, qui a vu Cadoudal l'exécuté, Pichegru se suicider et Moreau exilé, le général Moreau, le vainqueur de Hohenlinden, à son tour, prend le chemin des États-Unis. Et donc vous voyez que les proscrits, ceux qui ne souhaitent pas trop s'éterniser sur le continent européen, ils ne se tournent pas vers l'Asie, ils ne vont pas aller vers la Chine, ils ne vont pas aller vers l'Inde. Ils vont vers les États-Unis. C'est une terre nouvelle, une terre où la liberté existe, car c'est ça depuis Washington. C'est une terre où il y a d'énormes promesses à faire. Et alors va suivre, ou devait suivre, Napoléon. En effet, après sa seconde abdication, Napoléon, le 26 juin, se voit conseillé par Carnot de passer à la Malmaison, et puis de Malmaison, Napoléon, après Waterloo, après sa deuxième abdication, va à Malmaison, et de là, va essayer de rejoindre Rochefort, qui est le grand port français pour les États-Unis, et on a mis à sa disposition, il a obtenu, puisqu'il a abdiqué, mais on lui a obtenu d'avoir deux frégates qui devraient l'emmener aux États-Unis. Mais, d'une part, la croisière anglaise bloque le port de Rochefort. D'autre part, Napoléon, par le congrès de Vienne, a été mis hors la loi. Et donc Fouché, qui lui avait promis pour le faire partir de Paris et pouvoir intriguer avec Talleyrand la restauration de Louis XVIII, Fouché ne lui envoie pas les sauf-conduits nécessaires. Et donc finalement, Napoléon n'ira pas aux États-Unis comme il l'avait envisagé. On montre encore une maison à la Nouvelle-Orléans qu'aurait pu habiter Napoléon. Il n'ira pas parce qu'il va être contraint de se rendre aux Anglais et ce sera Sainte-Hélène, nettement moins accueillante que Philadelphie. Mais si lui n'y va pas, son frère Joseph va réussir à passer. Et puis, il va y avoir d'autres généraux proscrits, ainsi Grouchy, le fameux héros, enfin, malgré lui, de la bataille de Waterloo.
Pardon, qui ?
L'Allemand, le général l'Allemand, Lefebvre Desnouettes, Vandamme, tous les généraux compromis dans l'aventure des 100 jours vont aller aux États-Unis, et ainsi que d'autres proscrits civils, et c'est au Texas qu'ils vont fonder ce qu'on appelle le champ d'asile. Il va y avoir des colonies de Français. On aura jusqu'à 25 000 Français exilés pendant la période de la Restauration en France qui vont se retrouver aux États-Unis. Voyez donc
que la garde rapprochée de Napoléon choisisse le Texas plutôt que la Louisiane m'incite à vous poser la question. Pourquoi tu l'as le Texas?
Le Texas parce que au fond, il y avait des immensités où l'on pouvait s'installer. Et n'oubliez pas qu'ils sont tolérés, ils sont proscrits, donc il vaut mieux être plus loin, le plus loin possible. Il peut y avoir des agents royalistes ou autres, donc ils vont s'installer là. Mais la Louisiane n'est pas pour autant délaissée. Je vous rappelle que Napoléon à Sainte-Hélène, le corsaire Lafitte est prêt à faire évader Napoléon de Sainte-Hélène, et il y a la maison qui est prévue à la Nouvelle-Orléans. Donc si Napoléon s'était évadé, il venait en Louisiane. Mais c'est le Texas. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, nous en parlerons, il y a des westerns qui montrent des Français au Texas, cette époque, la caravane vers le soleil, par exemple. Donc, les États-Unis sont devenus, pour la France, une terre de refuge. Et on va le voir aussi pendant la Seconde Guerre mondiale, où des intellectuels comme Jules Romain, André Mauroy et quelques autres vont aller aux États-Unis pour y trouver un accueil et une liberté qu'ils n'avaient plus en France.
Mais est-ce que vous diriez aujourd'hui que les rapports entre les États-Unis et la France sont encore aujourd'hui fortement marqués par ce rêve américain qu'avait Napoléon Bonaparte? Rêve américain, mais aussi une politique américaine.
Rêve américain, aujourd'hui, c'est celui des jeunes générations. C'est celui des entrepreneurs, c'est celui des inventeurs qui ne rêvent que de la Silicon Valley, qui rêvent que de ces puissances américaines où l'on peut mieux s'épanouir parce que les dimensions sont plus grandes, la liberté peut-être aussi plus grande. Donc, ça reste encore, pour un jeune entrepreneur, un rêve américain.
Parlons plutôt donc de la diplomatie française vis-à-vis des États-Unis. Est-ce que vous pensez qu'elle est marquée par cette aventure de Bonaparte, par la politique de Napoléon Bonaparte?
Il y a eu des hauts et des bas. La diplomatie française, avec Monsieur de Villepin, qui a écrit beaucoup sur Napoléon et de choses excellentes, rappelez-vous, s'était opposé aux États-Unis à propos de l'affaire d'Irak, en rappelant que la France était un vieux pays par rapport aux États-Unis, qui étaient un pays plus jeune. Mais malgré tout, nous sommes, depuis la guerre froide, pratiquement dans le camp américain.
Isri, you'll have to accept one fact. Since Papa died, I am the head of the family, and I...
It really is not an upright thing to cancel an invitation.
Is he handsome, the one for me?
Oh, very handsome by daylight, but I've not yet seen him by moonlight.
These adventurers, do they have a name?
Bonaparte or Bonaparte, something like that.
Bonaparte, what an impossible name.
Madame?
Good evening.
Bonaparte, sir. Joseph Bonaparte.
We were very happy you were able to accept my sister's invitation.
Thank you, sir. My brother, Napoleone.
We were also glad that you could come, Citizen General.
It was not difficult. I had nowhere else to go.
My brother means, of course, that no one else had been kind enough to invite...
What I mean is that after hearing Joseph tell of your charming daughters, I could have gone nowhere else, Madame Clary.
Yes. Shall we be seated?
Thank you.
Citizen General.
Thank you.
Bonaparte, vu par le cinéma américain, comment le cinéma américain a rendu compte de cette histoire qui est aussi quand même l'histoire historique de la France et des États-Unis?
Alors, vous le savez, Napoléon est un mythe universel et c'est le personnage historique le plus porté à l'écran. Je viens de préfacer un livre qui va sortir d'Hervé Dumont, conservateur de la Cinémathèque de Lausanne, Napoléon en 1000 films. Il a recensé tous les films et téléfilms qui évoquent Napoléon. Quelquefois, il ne peut qu'être évoqué sans être le héros principal. En tout cas, il en a recensé 1000 films. Il m'a demandé la préface et cette préface, je l'ai ainsi commencée. Après Jésus, Napoléon est le personnage le plus porté à l'écran. Et j'ai envoyé cette préface et M. Hervé Dumont m'a appelé et m'a dit « Écoutez, la préface, ça ne va pas. Ce n'est après Jésus, Napoléon est le personnage le plus porté à l'écran. » Non, il n'y a plus de film sur Napoléon qu'il n'y en a sur Jésus lui-même, bien que fils de Dieu. C'est vous dire combien l'ampleur du
mythe est considérable. Mais là, vous avez compté tous les films.
Alors, tous les films européens, égyptiens, vous en avez dans tous les pays, chinois et autres. Alors, il est évident que dans ce mythe cinématographique, Hollywood se taille la part du lion, puisque c'est la partie cinématographique du monde la plus importante. Et cela a commencé, c'est assez frappant, dès, je vous rappelle, le cinéma apparaît en 1901, ça commence dès 1909, où il y a un film américain de Blackstone qui s'appelle Napoléon, et puis il y en a un deuxième, L'homme de la destinée, parce que vous savez, Emerson, qui est le grand penseur américain, Emerson a écrit un livre sur l'énergie dans la vie politique et autres, et il fait de Napoléon l'un de ses héros. Et alors ça va être un déferlement de films consacrés à Napoléon.
Parce que la question qui est sous-entendue, Jean Tullard, c'est que retiennent les Américains de cette histoire-là, précisément? Comment voit-il Bonaparte?
Alors, c'est effectivement la question que vous posez, à laquelle il faut répondre. N'oublions pas que la plupart des grands réalisateurs américains, John Ford avec Le Barbier de Napoléon, ou Raoul Walsh avec La Belle Espionne, ont fait des films où ils mettent en scène Napoléon. Que Chaplin lui-même avait prévu de faire un film sur Napoléon, où Napoléon s'évadait de l'île d'Elbe et revenait en Europe pour prêcher la paix. Et on a une image où l'on voit Chaplin en Napoléon. C'est une photo qu'on montre assez souvent. Donc Chaplin lui-même avait envisagé de tourner un film sur Napoléon. Alors comment, votre question est très intéressante, comment les Américains, ou plus exactement comment Hollywood, qui n'est peut-être pas toute l'Amérique, mais enfin comment Hollywood voit les Napoléons? Il y a un film très significatif, c'est Marie Walewska. Film de Clarence Brown, le titre original est Conquest, qui est de 1938. Et dans ce film, Marie Walewska est interprétée par la divine Greta Garbo. Donc vous voyez déjà Garbo dans ce film. Et pour Napoléon. Eh bien, pour Napoléon, on a cherché. Et on s'est dit, Napoléon, c'est un Latin lover. Parce que ben, il est amoureux, c'est les amours avec Marie Walewska. Et donc, on est allé chercher Charles Boyer. Et donc, Charles Boyer, Napoléon, après tout, le problème, c'est qu'il ne faut jamais voir la version originale. Parce qu'on a dit à Charles Boyer, Latin lover, etc., de parler avec un accent français. Ce qui donne, lorsqu'il fait sa cour à Marie Walewska, « I love you, me darling ». Ce qui, évidemment, est assez désastreux, mais ravit les Américains parce qu'il a un accent français à couper au couteau. L'image de Napoléon vue par Hollywood peut être plus flatteuse que celle du pauvre Charles Boyer. Il y a en effet un autre film, 1954, Désiré. Désiré, signé par un metteur en scène, Harry Koster, qui est vraiment un crétin intégral. C'est pas son nom, Harry Koster. Pourtant, il signe Harry Koster. Son vrai nom, c'est Kosterlitz. Kosterlitz, Austerlitz, voyons, c'est vraiment... Et donc, là, ce sont les amours, les premières amours de Bonaparte avec Désirée Clary, la petite fiancée. La petite fiancée, bon, c'est Jeanne Simmons, mais qui a-t-on choisi pour faire Bonaparte? Marlon Brando. Là, ça commence... Et Marlon Brando est le seul acteur de cinéma à avoir à la fois dans un même film interprété Bonaparte et Napoléon. Car je vous rappelle qu'en général, dans le Napoléon de Guitry, il y a Daniel Gélin qui fait Bonaparte, et puis ensuite Raymond Pellegrin qui fait Napoléon, puisque Bonaparte est très maigre et Napoléon est plus rond. Et bien là, c'est Marlon Brando lui-même qui interprète le personnage, à la fois de Bonaparte et de Napoléon. Alors, d'autres fois, on est en panne souvent, et c'est le cas de Raoul Walsh avec La Belle Espionne, on se dit, ouf, Napoléon, faut pas trop le montrer, il faut qu'on cherche un acteur français. Et dans La Belle Espionne, interprétant Napoléon, on découvre avec stupeur Gérard Oury. Gérard Oury, les films avec Louis de Funès, eh bien, vous le voyez en Napoléon, dans La Belle Espionne, où il bredouille quelques mots. C'est vous dire combien ça peut varier. Dans Guerre et Paix, la version de King Vidor, c'est Hébert Lhomme, qui en général joue plutôt les méchants, mais on le voit très peu, mais qui interprète Napoléon. Bref, le personnage de Napoléon, vu par Hollywood, c'est essentiellement un franchouillard avec un accent français, c'est bon, et un peu rond, un peu enrobé, enfin.
Mais dis donc, j'ai l'impression que ces films ne s'intéressent qu'aux histoires sentimentales de Napoléon.
Oui. Alors il y avait quelqu'un qui allait faire le film par excellence, c'est Stanley Kubrick. Stanley Kubrick allait faire un Napoléon. Et pour ce Napoléon, je crois qu'il avait songé à Al Pacino, d'ailleurs. Et donc...
Pas mal.
Pas mal, pas mal. Oui, alors, vous savez qu'il a... On a tout, j'ai publié... A fait, dans un travail chez ta chaîne avec une spécialiste de Kubrick, nous avons publié le scénario, car il avait écrit tout le scénario, il avait réuni une documentation prodigieuse d'uniformes, de choses de ce genre. Ce qui s'est passé, c'est que...
Et qu'est-ce qui ressort de ce scénario, avant de parler des raisons de la non-production de ce film écrit? Qu'est-ce qui raconte Kubrick sur Bonaparte, Jean Tulard?
Hélas, c'est plutôt l'homme que le génie, c'est plutôt les amours.
Encore
quelques scènes torrides, mais oui.
Même Kubrick.
Voyez, Napoléon vous dit, Napoléon c'est la guerre. C'est la guerre, toujours les batailles, etc. On vous dit, alors là, c'est moi, Napoléon, c'est le code civil, les institutions. Eh bien non, pour les gens. Pourquoi? Parce que vous avez le carré de femme, comme on dirait au poker, le plus magnifique. Joséphine. Alors, Joséphine, c'est l'initiatrice. C'est celle qui a été formée par Alexandre de Beauharnais, lui-même modèle de Choderlos de Laclos pour le personnage de Valmont. Alors quand Bonaparte passe, sort des bras de la petite Désirée Clary qui se retrouve dans la couche de Joséphine, je n'en dis pas plus. Vous avez ensuite Pauline, la sœur, admirable, qui a inspiré deux films au moins. Pauline, ses charmes nous sont archi connus puisqu'elle a été sculptée par Canova entièrement nue. Et quand on lui disait « ça vous a pas gêné », elle dit « non, l'atelier était chauffé ». Et donc, vous avez ensuite la maîtresse, mais fidèle, douce, aimante, Marie Valeska, immortalisée par Greta Garbo, ce qui est quand même pas rien. Et puis, vous avez l'épouse, Marie-Louise, la deuxième épouse, Marie-Louise, qui finit par le tromper. Et donc, Napoléon finit cocu, ce qui... Il était déjà avec Joséphine. Mais donc, ça lui donne une dimension humaine. Bref, pour un cinéaste, pour un scénariste, les femmes, c'est un des éléments importants de l'histoire de Napoléon, bien plus que les batailles, bien plus que le civil. Et puis, il y a les deux plus beaux traîtres de notre histoire, c'est-à-dire Fouché et Talleyrand. Et on voit Talleyrand souvent dans les films américains, dans Marie Valeska, il est interprété par un acteur complètement nul, mais enfin, ça ne fait rien, on voit Talleyrand. Et il était prévu avec Fouché dans le scénario de Kubrick. Bref, vous voyez, l'épopée napoléonienne, vous savez tout, la gloire, l'amour, la trahison, donc pour un scénariste, on ne peut pas y échapper, et ça vous explique pourquoi Hollywood a fait de Napoléon ce personnage peut-être le plus important. Je crois qu'il y a, mais j'en serais pas formel, plus de films à Hollywood sur Napoléon que sur Lincoln, ce qui n'est pas peu dire.
Et s'il fallait ne retenir qu'un seul, Jean Tulard, le plus beau film réalisé par les Américains autour de Napoléon Bonaparte?
Alors, c'est un film qui n'est pas tout à fait américain, mais dont les interprètes sont américains. C'est le Bondarchuk Waterloo, film magnifique évoquant la bataille, et où Orson Welles et Louis XVIII et Rod Steiger, Napoléon, avouaient qu'il fallait le faire.
Tout ça par un grand metteur en scène soviétique.
Soviétique.
Et un producteur Sergei
Bondarchuk. Et un producteur italien, Dino De Laurentiis, sur un français.
Napoleon's a pastry. Bismarck is a herring. Alexander's a cream de coco mixed with rum. And Herbie Hoover is a vacuum. Columbus is a circle and a day off. Pershing is a square, what a payoff. Julius Caesar is just a salad on a shell. So, little brother, get wise to yourself. Life's a bowl and it's full of cherry pits. Play it big and it throws you for a loop. That's the way with fate. Comes today we're great. Comes tomorrow we're tomato soup. Napoleon's a pastry. Get this under your brow. once used to be a rooster.
Vous pouvez retrouver cet entretien en passant par franceculture.fr. Tout est à votre disposition à la page de l'émission Tête chercheuse. La bibliographie de nos invités, les photos, mais aussi le podcast que vous pouvez partager avec vos amis. Merci. Dans un instant, le voyage, la grande évasion, Villemonde par Catherine Libert.
Good Queen Mary just floats along from pier to pier. Venus de Mayo.